Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Si nous sommes tous un peu des enfants de la télé, Jennifer, elle, l'est totalement, puisqu'elle est née dans la matrice de la première chaîne française, TF1. C'était il y a 17 ans, le temps a passé, et Jennifer règne toujours. Ah, c'est sans doute ça le talent, pas seulement la virtuosité vocale, mais cette capacité à se faire aimer, quoi qu'il arrive, par ce public qui vous a choisi, et dont on aime à dire qu'il est infidèle. Or, fidèle, il l'est à Jennifer, de manière indéfectible. Jennifer qui lui offre à son public un 8e album baptisé Nouvelle Page et une double tournée dès le printemps. La première, proche et intime, du 8 mars au 6 avril. La seconde, flamboyante et électrique, du 26 avril au 25 mai, en passant le 18 mai par la gigantesque salle de la Scène musicale à Paris.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue Jennifer.
Bonjour, merci.
Jennifer, pourquoi dites-vous que ce 8e album est comme une envie de renaissance? De quoi fallait-il renaître?
Oh, de bien des choses.
Ah bon?
De retrouver surtout l'amusement à travers la passion. J'avais un petit peu perdu le goût de beaucoup de choses suite à une année complètement chaotique qui était 2017, des étapes douloureuses, la perte d'un être cher, l'accident. J'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin d'avoir d'autres points de vue, légitimement, au bout de 17 ans, avec les mêmes personnes, j'avais envie d'un second souffle. Et parce que j'avais perdu un petit peu le goût de tout ça. J'avais perdu l'essentiel.
Vous dites j'avais perdu le goût de tout ça. Vous avez même confié à la presse, j'ai pensé à tout arrêter et faire autre chose. Mais sincèrement Jennifer, vous pourriez envisager une vie sans chanter?
J'y ai songé. Sincèrement, j'y ai songé.
Réellement.
J'y ai songé parce que j'avais un trop-plein de tout. Tout s'est passé extrêmement vite. Je suis sortie de la Star Academy, j'avais 18 ans. J'ai fonctionné avec mon âge, avec mes humeurs, en fonction aussi des rencontres que j'étais amenée à faire qui m'ont totalement construite. Aux yeux de tous, j'ai eu des enfants aussi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses, et des étapes, moi, personnelles. Et du coup, il y a un moment donné où peut-être que je faisais les choses trop vite, où je m'étais un petit peu perdue psychologiquement, émotionnellement. C'était difficile, sincèrement, au bout d'un moment. Et donc, j'ai pris le recul. Et en fait, il y a eu des éléments déclencheurs, comme ça, sur cette année 2017, qui ont été finalement... Ça a été salvateur, finalement. Ça a été une période, finalement, bénéfique.
Alors, le titre si explicite de cet album, Nouvelle Page, je voudrais savoir si c'est vous qui l'avez imposé. C'est vous
Nouvelle
qui l'avez
page,
trouvé
Oui, c'est moi qui l'ai trouvé, parce que ça, il me semblait évident. Je ne veux pas repartir à zéro. Je ne veux pas renier non plus les précédentes.
Vous ne pourriez pas, de toute façon.
Ah non, de toute façon, c'est... Non, puis même, c'est pas du tout dans ma nature. J'assume tout et je suis ravie du chemin parcouru jusqu'ici et des gens avec qui j'ai collaboré, bien évidemment, que j'aime très très fort aujourd'hui. Hein, tout va bien. Mais c'était légitime de l'appeler comme ça, parce que c'est mon état d'esprit. Et d'écrire une nouvelle page, d'entamer une nouvelle page, même si le livre reste le même.
Alors, une quinzaine d'artistes ont collaboré à votre album, dont Slimane et Christophe Maé.
Oui.
Comment vous y prenez-vous quand vous demandez en fait une chanson à un autre artiste? Vous livrez vos humeurs, votre mood du moment, vous parlez de références musicales, vous avez griffonné quelques phrases.
C'est un
Comment
peu tout
jaillit
ça.
Tout ça?
Mais c'est un peu tout ça. Moi, j'ai partagé beaucoup de temps aussi avec des gens que je connaissais déjà. Il y a de nouvelles collaborations, effectivement, notamment Slimane, Christophe May, mais ce sont des copains en fait que je... Christophe, par exemple, je le retrouve sur les Restaurants du Cœur. Avec les Enfoirés, on a la chance de pouvoir partager aussi du temps sur place quand on se rend comme ça dans des villes différentes pour gagner de l'argent pour les Restos du Cœur d'abord. Et ensuite, nous, on s'accorde un petit peu de temps, nous, entre artistes, puisqu'on vit en communauté pendant un moment. Et du coup, c'est l'occasion de débattre sur les aléas du quotidien. Et puis là, j'entrais en studio, donc je lui partageais un petit peu mon humeur et tout ça. Et puis, il s'est mis à rédiger 2-3 phrases, à prendre la guitare, à me dire pourquoi pas ça. C'est venu assez spontanément, assez naturellement. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît.
C'est de la haute couture musicale.
Merci.
Alors, on ne me connaît pas, déclariez-vous à la presse l'année dernière, parce que sans doute vous étiez fatigué de tous ces titres mensongers inventés sur des photos volées donc par des paparazzis. En effet, on vous connaît mal, Jennifer, car comme Vanessa Paradis, vous avez grandi derrière la loupe forcément déformante qu'est un poste de télévision. Alors en quoi la vraie Jennifer diffère-t-elle de celle qui est épiée par les caméras depuis qu'elle a à peine 18 ans? Vous vous reconnaissez dans ce qu'on dit généralement de vous? Ou rarement?
Ça dépend. Ça dépend ce qu'on dit. Non, tout n'est pas complètement faux. Si je m'en réfère à la presse à scandale, de toute façon, oui, la majorité, c'est faux. De toute façon, j'ai une vie peut-être un petit peu trop ennuyeuse à leur goût. Il faut qu'ils romancent, il faut qu'ils racontent des bêtises.
Tout ça.
Exactement. Effectivement, c'est vrai que j'ai une vie trépidante. Je peux m'exprimer sur des chansons et en même temps, j'ai une vie extrêmement simple. J'élève de mon mieux deux fils, deux garçons.
15 ans et 4 ans, n'est-ce pas ?
Exactement. Et du coup, ils ne peuvent pas s'empêcher de venir me pied, me voler des images qui n'appartiennent à moi et qu'à moi. Donc, de temps en temps, effectivement, j'ai la sensation que ce n'est pas moi. Mais bon, mais ça fait partie de ma vie et je l'accepte aujourd'hui. Mais c'est
d'autres
pénible.
Artistes, vous appartenez à ce public qui vous a élu au sens sacré du terme,
oui,
qui s'est approprié, en fait, Jennifer,
ouais,
depuis près de deux décennies.
Bah, peut-être, comme on m'a vu grandir, je sais pas, c'est ce que j'en déduis, j'attise une certaine curiosité parce qu'on m'a vu très très jeune, on m'a vu évoluer dans la Star Academy, en même temps c'était que 3 mois de ma vie, 3 mois très intenses, mais on s'est attachés, et moi aussi je me suis attachée aux gens, moi aussi.
Alors, effectivement, vous avez tout vécu très tôt. La surmédiatisation, la gloire, l'argent, le premier bébé, tout ça presque en même temps, ça isole.
Ça peut isoler. Évidemment, le succès peut très vite vous isoler. C'est le tourbillon médiatique. Et on peut facilement, en fait, ne pas s'autoriser à. Ne plus s'autoriser à, alors que c'est tout à fait possible. Je ne crée pas des émeutes à chacun de mes déplacements non plus. Faut pas exagérer. Il y a eu cette période, en fait, qui a été surmédiatisée après la Starac et tout ça. C'est vrai que c'était compliqué. Si je n'avais pas eu l'éducation que j'ai reçue, je me serais probablement perdue.
Mais votre histoire, en fait, elle a démarré bien avant la Starac. Parce que, Jennifer, quand on quitte la maison à 16 ans, ce qui fut votre cas, et qu'on est donc happé peu de temps après par le tsunami d'un triomphe populaire, est-ce qu'on est en attente, malgré tout, d'un peu de protection de la part des parents, même éloignés, même impuissants, parce que complètement néophytes, en fait, dans ce métier ?
C'est exactement ça. Mais en même temps, ils m'ont fait confiance. Ils me font confiance. C'est la plus belle preuve d'amour, finalement, que je peux recevoir de mes proches. C'est de me faire confiance et de me rappeler à l'ordre s'il le faut, bien évidemment, si jamais j'ai tendance à dévier. Mais sincèrement, c'est arrivé une ou deux fois où ils m'ont sonné la tirette d'alarme parce qu'ils avaient la sensation que j'étais exténuée, en fait, et que j'étais dépassée par les choses. C'est juste à ce niveau-là.
Alors Jennifer, vous aviez été la première à vous retourner en 2013 sur la prestation de Louane, âgée à l'époque de 16 ans, dans The Voice.
Oui.
Comment vous la regardez s'épanouir, Louane, qui récolte tous les triomphes dont ses parents décédés rêvaient pour elle ?
Je suis très touchée par Louane depuis le début. Effectivement, j'ai eu la chance de croiser son chemin sur sa participation à The Voice. Je suis témoin de cette ascension complètement fulgurante aussi. Je regarde de loin et je lui dis bravo. C'est une fille extrêmement courageuse, une belle artiste qui mérite sa place et qui mérite tout ça, tout ce qui lui arrive.
Juste, avant de s'interrompre un bref instant, votre nom complet, c'est Jennifer Yael Dadouche Bartoli. Alors, on connaît une Cécilia Bartoli, cantatrice, virtuose du chant lyrique baroque. Jennifer, c'est un prénom qui envoie d'autres signaux. Et vous dites que parfois, vous trouvez qu'il sonne trop américain, ce prénom.
Il
véhicule pas, en fait, assez votre tempérament corse et puis le feu méditerranéen qui brûle en vous.
Je sais pas, méditerranéenne, oui, je le suis, bel et bien. Mais non, Jennifer, c'est un peu le rêve américain de ma mère. C'est un peu ça, je suis née en pleine période de Jonathan et Jennifer. En plus, c'était génial d'avoir choisi ce prénom-là. Mais je lui en veux pas, bien évidemment, à chaque fois. Elle me dit, oh, quand même, t'exagères. Mais je m'appelle comme ça. Je préfère les prénoms qui ont une vraie étymologie, qui ont un vrai sens. Je trouve qu'il en manque.
Bon, votre maman a rêvé pour vous. Vous, le rêve, vous l'avez transformé en réalité. C'est en compagnie de Jennifer qu'on se balade cet après-midi. Et c'est drôlement sympathique. On se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Isabelle Morizet reçoit aujourd'hui la chanteuse Jennifer, de retour avec une actu foisonnante.
une double tournée au printemps 2019, un rendez-vous le 18 mai à la scène musicale à Paris, un nouvel album symboliquement baptisé Nouvelle Page. Et bien tout cela mérite bien de faire le point cet après-midi avec Jennifer. Alors chère Jennifer, elle a été belle, votre enfance, mais elle a été brève, car en fait dès l'adolescence, ce métier, j'ai envie de dire, vous a aimanté, c'est ça ?
C'était une évidence, effectivement, c'est la seule chose qui m'ennuyait pas, c'était chanter, et c'était enfiler des costumes différents, jouer à comédie, dans le caméscope de mon père ou autre. Dès qu'il y avait un objectif, eh bien, j'avais un dédoublement de personnalité. Et c'est vrai que c'est la seule chose qui me permettait d'évader mon esprit. Alors c'était très égoïste au départ, hein, chanter que pour moi et moi. C'était ma récré à moi. Et ensuite j'ai compris qu'on pouvait partager sur cette passion, pouvait partager des sentiments.
Justement, le partage, on y arrive. Les bars, les bals, ouais. Les restaurants, les petites scènes, les festivals. En fait, dès l'adolescence, vous êtes frotté donc à cette expérience en chantant des reprises pour un public au départ local. Mais concrètement, ça se passait comment ? Parce que vous chantiez sur une bande orchestre, vous aviez un pianiste.
C'est ça. Alors parfois, il y avait déjà un orchestre installé ou parfois juste un simple pianiste. Et dès que je voyais un micro ou un musicien, bien, j'allais au culot. Et parfois, j'étais seule avec ma petite PBO, mon petit playback orchestre, pour aller le glisser dans un appareil pour pouvoir bénéficier d'un micro et de chanter sur scène.
Mais alors, par exemple, Jennifer, chanter dans les bars ou les restaurants, bon, c'est pas tout à fait évident pour une adolescente. Vous rencontriez le patron du bar qui savait que vos parents, bien sûr, étaient d'accord, et puis il vous disait d'accord, ok, à 22h par exemple, tu démarres, c'est ça ?
Oui, genre mes parents étaient d'accord, quoi. Je mentais. J'en ai pas fait beaucoup, hein, des piano-bars, hein. J'en ai fait 3-4.
Mais vous êtes arrivée de chanter dans les piano-bars alors que vos parents l'ignoraient.
Ah oui, totalement.
Et vous aviez quel âge ?
Alors, mon père était absent à cette période-là, et je devais avoir entre 12 et 15 ans, ça s'est passé tout ça.
Ouais. Et il était constitué de quoi, votre répertoire de reprises ?
Je m'adaptais au répertoire des musiciens sur place, qui avaient des cahiers avec toutes les paroles de noter. Et comme j'ai une oreille extrêmement musicale, j'apprenais très vite les chansons et je m'adaptais à ce que j'entendais derrière moi, avec les musiciens.
Donc vous étiez capable de plonger dans tous les univers musicaux possibles et imaginables.
Exactement. Et le seul... c'était un petit peu pénible parce que les gens continuaient de parler et tout ça. Il y a juste quelques chansons comme ça où les gens s'arrêtaient et me regardaient. Et avait le doute sur l'âge, peut-être que c'était ça qui les faisait tilter, je ne sais pas. Ou les moments de slow où je poussais un petit peu la voix, c'était étonnant parce que j'étais petite, je suis toujours petite hein, d'ailleurs, je suis 1m58, mais ça devait leur faire bizarre que je pousse autant la voix parce que je reprenais des chansons avec des ascensions vocales comme ça qui me permettaient de faire des envolées lyriques parfois. Et c'était surprenant du haut de mes trois pommes.
La musique, elle est dans l'ADN maternel, n'est-ce pas ? Parce que votre maman sait parfaitement ce que c'est que chanter de façon professionnelle.
Ah oui, elle était chanteuse d'orchestre, ma mère. Donc j'ai toujours bercé dans un univers extrêmement musical. Il y a toujours eu de la musique à la maison. C'était notre moyen aussi de partager du bon temps ensemble, de partager des moments ensemble, de réunions familiales.
Vous
comme
avez
ça.
Chanté sur scène avec votre mère ?
J'ai déjà chanté avec ma mère, oui, bien sûr. Elle m'a beaucoup trimballée aussi dans les associations sur lesquelles elle était engagée. Elle a toujours été très engagée pour les personnes âgées, dans les maisons de retraite, et même sur à la soupe populaire, de temps en temps. Elle a toujours fait ça, elle le fait encore.
Jennifer, est-ce que vous êtes douée pour les chants polyphoniques corses ?
Alors, non, mais j'adore ça, et je le fais quand même. Mais... Non, mais ça me plaît beaucoup.
Mais alors pourquoi dites-vous non, je ne suis pas douée ?
Non, mais parce que
j'ai du mal à imaginer ça.
Ça demande une rigueur et une discipline aussi que je n'ai pas forcément. Voilà, disons les choses clairement. Je chante de la pop, c'est pas totalement au hasard non plus. C'est ce qui me correspond plus. Et les polyphonies corses, je les retrouve quand je rentre chez moi, avec mes amis aussi qui ont constitué des groupes. Il y a un groupe aussi que j'aime énormément qui s'appelle Voce Vent aussi. Il m'était arrivé de pousser un petit peu la chanson avec eux sur scène. J'ai eu cette chance-là. Je le fais de temps en temps encore. Je me fais plaisir, mais c'est plus sur mes terres ou quand ils viennent rendre visite au public à Paris, les Parisiens. La dernière fois, je suis allée les applaudir, c'était au Trianon, et on a partagé un très bon moment.
Alors j'aime bien cette formule sur mes terres, parce que bon, votre papa est originaire d'Algérie, mais votre maman, en fait, elle a fait de vous une Niçoise ou une Corse ?
Ben, c'est un peu des deux. Moi, j'ai vécu à Nice et après j'étais partagée avec la Corse. Dès mon plus jeune âge, j'avais 2 ans et demi, je partais avec ma valise toute seule rejoindre mon oncle et ma tante en Corse parce que j'aimais ça, j'aimais le village, j'aimais mes amis. Et donc j'étais un petit peu aux deux endroits et j'ai reçu 2 éducations, la culture aussi pied-noir algéroise du côté de mon papa aussi. Donc j'ai bercé vraiment avec le côté méditerranéen comme ça, très enveloppé par une famille très aimante. Et puis ces deux cultures qui finalement se rejoignent.
Mais alors, ces deux cultures qui se réchauffent au soleil, et le soleil, justement, dans les cartes postales de votre enfance, Jennifer, vous évoquez parfois le Gabon. Pourquoi le Gabon ?
Le Gabon, parce que j'y partais retrouver mon papa, qui y a travaillé pendant un moment, et j'ai une partie de ma famille qui y vit. J'ai des neveux, nièces, qui habitent là-bas. Voilà, il y a un joli métissage dans ma famille, oui. Donc j'y vais régulièrement, oui.
Magnifique. Europe 1. Alors, 14 ans. Vous n'avez que 14 ans, l'âge de vos candidats dans The Voice Kids. Quand votre maman vous a inscrite au casting de Graines de Star sur M6, et même si ce concours-là, vous n'avez pas remporté, vous êtes arrivé en finale avec une aisance. J'ai encore regardé ce matin les images. Une aisance, une virtuosité dans la voix, bref, un talent qui, franchement, explosait à l'écran. Ce soir-là, la France a vraiment compris qu'elle allait très vite vous revoir. Et pour longtemps, on fait une pause. On retrouve tout de suite Jennifer.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Il est précisément 15h21 et vous le savez, chaque week-end, Isabelle Morizet s'entretient avec une personnalité médiatique durant près d'une heure. Aujourd'hui, le micro est tendu à Jennifer.
Elle veut tout, elle obtient tout, elle réussit tout. The Voice Kids, puis The Voice sur TFA. Une gigantesque tournée, double d'ailleurs, au printemps. Un nouvel album judicieusement baptisé Nouvelle Page. Une série sur la une avec Mathilde Seigné et Fred Testo. Et ben voilà, je reçois Jennifer, que la passion rend hyperactive. Alors Jennifer, on a l'impression que, en fait, les candidats de The Voice Kids, qu'ils aient 8, 12 ou 14 ans, ne sont absolument pas perturbés par le trac qui inhibe complètement certains adultes. Vous aviez le trac ou pas du tout quand on vous a découverte, bien avant l'aventure de la Starac, finaliste à Graines de Star?
Mais oui, oh là là. Mais je suis la plus traqueuse du monde, je crois. Et que plus j'avance dans ma carrière, plus je le suis. Non, non, j'ai toujours plein de doutes, tout le temps. Mais je les accepte davantage et j'arrive à mieux le maîtriser. En revanche, sur The Voice Kids, je suis témoin d'une... Il y a une forme d'inconscience, d'insouciance. Ils ont un détachement complètement surprenant dès le plus jeune âge. Sur The Voice Kids, je suis agréablement surprise à chaque fois par le niveau et le bagou de ces enfants. Et en même temps, toute cette, ouais, cette forme d'insouciance comme ça qu'on a quand on est jeune. Quoi.
Quand aussi, on est jeune et qu'on n'a rien à perdre.
Il n'y a pas d'enjeu. Quoi. Ils sont là, ils font un concours de chant, ils sont pris, bah c'est tant mieux. Et puis ils ne sont pas pris, ils sourient quand même, ils sont contents. Ils sont montés sur le plateau de The Voice avec des musiciens. Bon, ils sont très accompagnés, hein, ils sont choyés, on les abandonne pas comme ça. Il y a beaucoup de bienveillance.
J'imagine bien. Mais vous, lorsque vous êtes arrivé en finale, oui, donc de Graines de Star, vous aviez 14 ans, vous n'avez pas remporté cette finale, vous auriez dû. On sent qu'il y avait, alors que vous maîtrisiez complètement la voix, on sent que dans le regard, il y avait une espèce d'impatience de connaître justement le résultat.
De sortir surtout du plateau, tellement j'étais mal. C'était une seule émission, en fait, tout était condensé sur cette émission. Mais une fois que j'avais chanté, j'avais envie de partir, peu importe si je gagnais, en fait. J'étais complètement ailleurs, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise avec moi, quoi. J'avais ce trac que je n'avais pas réussi à gommer totalement, quoi. Jusqu'en chanter, et encore, moi je le vois. Je le vois que je l'ai gardé et que j'ai pas réussi à m'en débarrasser totalement.
Bon, Jennifer, lorsqu'à 14 ans à peine, on est mise sur une rampe de lancement comme la finale de Graines de Star à l'époque sur la 6, j'imagine qu'il est bien difficile de réintégrer le quotidien de son collège. Donc vous avez tenu 2 ans et puis vous avez finalement plié bagage en seconde, donc au lycée, en annonçant à vos parents que Paris, bien sûr, vous attendait. Ils ont réagi comment, vos parents? Parce que c'est très tôt pour une fille quand même de faire ses valises à 16 ans.
Extrêmement tôt, encore une fois, ma mère m'a fait confiance, mon papa aussi. En fait, je vendais des beignets pour me faire de l'argent de poche en Corse, oui, l'été. On savait aussi que j'étais la petite chanteuse du coin, voilà, qui chantait un petit peu à droite à gauche dans les bals et tout ça. Et il y a une jeune femme en fait qui m'achetait des beignets sur la plage, qui m'a dit le jour où tu veux monter à Paris, je te donne un coup de main, je te déduis tes jours de salaire si tu veux aller chanter, mais voilà, je peux t'accueillir. Donc j'ai travaillé en tant qu'assistante attachée de presse dans une agence de presse à Asnières-sur-Seine, spécialisée dans les nouvelles technologies. Donc vous dire l'opposé de ce que j'envisionnais, mais en même temps ça me donnait un petit peu à manger aussi. Donc ça m'a permis aussi de rassurer mes parents pour qu'ils puissent me lâcher un petit peu à la capitale. Et donc je suis montée avec 3 francs 6 sous et j'ai essayé. J'ai
Mais elle trouver, était d'une autorité implacable, cette personne qui vous avait donc en fait décroché ce job d'assistante, ouais, d'attachée de presse. Parce qu'il paraît que chaque fois que vous alliez chanter quelque part, elle divisait votre salaire.
Ben oui, c'est le jeu.
Oui, donc, mais tout de même, ouais, quand donc, on a affaire à une mineure qui est seule, sans un sou, ouais, à Paris...
Oui, mais bon,
c'est comme peut-être ça, hein, plus accommodant.
Ça va bien forger, en tout cas.
Donc ça veut dire que cette Galère qu'Aznavour chantait délicieusement, oui, l'appelant la bohème...
Je m'y retrouve.
Vous l'avez
totalement
connu.
Ah ouais, j'ai eu 2 ans de bonnes petites galères. J'ai été aidée par des cousines aussi qui avaient des appartements, qui vivaient dans un petit studio. Elles commençaient à se mettre en couple avec un jeune copain. J'étais dans le canapé entre les deux. Non, c'était difficile.
Vous n'avez jamais songé copines... à rentrer en Corse?
Non, parce que j'étais...
Vous saviez que vous alliez réussir?
Non, j'avais envie. De réussir, pas forcément d'être reconnue pour ma musique, mais en tout cas de trouver un job là-dedans, quoi. Je voulais vraiment chanter, c'était la seule chose qui m'importait.
Mais alors, comment est arrivée l'opportunité de la Starac, Jennifer ?
Eh bien, la Starac, il y a une pub qui passe à la télé, et donc, cette pub, voilà, on cherche des talents. Hein. J'étais très effrayée à l'idée d'être filmée et de vivre en communauté avec d'autres gens. Et en même temps, la jeune fille chez qui je vivais à ce moment-là me dit « Mais t'es folle, il faut absolument que tu y participes. » Donc, j'envoie mon dossier le dernier jour. J'y vais un peu à reculons, je me dis mais jamais de la vie, ils vont regarder la cassette faite à l'arrache avec toutes les photos découpées, le dossier était complètement raturé de partout. Non, ils vont avoir la fainéantise ne serait-ce que de l'ouvrir, mon enveloppe même ne donnait même pas envie de l'ouvrir, tellement c'était crade. Et donc du coup, on me rappelle et on me dit que je participe donc au casting de la Starac. Et là, ça s'enchaîne.
Ça s'enchaîne. Mais vous vous souvenez tout à fait de la première audition?
La première audition, oui, j'ai tout donné. Je suis passée la dernière, je vois le jury qui commence à sortir, je me dis bon, écoute, tu es restée là toute la journée. Ma copine, elle me retenait pour pas que je sorte, parce que j'en pouvais plus, je voyais les gens passer, des voix complètement extraordinaires, des personnalités aussi.
Qui font qu'on doute de soi.
Mais c'est ça. Et donc je passe et donc je donne tout. Je me suis dit, bon, écoute, tu n'as rien à perdre.
Exactement, elle a tout donné. Et depuis, eh bien, l'aventure est flamboyante. On s'interrompt un bref instant. On retrouve tout de suite Jennifer. Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit jusqu'à 16h. Sur Europe 1, on retrouve tout de suite Isabelle Morizet.
Juste un prénom pour une vraie et longue histoire d'amour avec le public. Je reçois Jennifer qui part en tournée au printemps prochain avec un nouvel album judicieusement, symboliquement baptisé Nouvelle Page. Alors, chère Jennifer, Mario, qui, il y a 17 ans de cela, parvint comme vous en finale de la Starac, mais ne la remporta pas, contrairement à vous, a complètement disparu donc des écrans radars. Vous êtes-vous imaginé, en fait, ce que serait votre vie si... ce 12 janvier 2002, à minuit pétante, vous n'aviez pas remporté ce que j'ai envie d'appeler le Graal, c'est-à-dire en décrochant un album avec Universal, à l'époque glorieuse donc de Pascal Nègre, 1 million d'euros d'avance sur recette, et puis la couronne de petite fiancée des Français, jamais égarée depuis, tout cela à seulement 18 ans.
C'était dingue. C'était complètement dingue. Déjà, entrer dans la Star Academy, déjà, c'était dingue pour moi. Parce que j'ai vraiment vécu une aventure humaine avant tout, avec des cours, avec voilà, je me suis sentie remplie de beaucoup de choses et j'en sors gagnante. Et puis après, tout s'enchaîne, donc c'est complètement dingue en fait.
Vous avouez, je n'aime pas la routine, elle me fait peur.
Ouais.
Or, pour la plupart des gens, le quotidien est fait de routine. Alors, après les feux d'une telle exposition sur TF1 à seulement 18 ans, vous auriez détesté réintégrer le quotidien et ces jours qui se suivent en se ressemblant?
Ouais, c'est vrai que j'ai du mal avec le quotidien.
Quand vous voyez vivre vos amis d'enfance, d'adolescence?
Mais j'aime bien les retrouver, par contre, au même endroit.
Ponctuellement
avec... Oui, c'est mes repères. Eux, faut pas qu'ils changent rien du tout. C'est moi l'électron libre.
Alors Jennifer, une chose m'intrigue. Comment fait-on pour garder pendant presque deux décennies le parrainage indéfectible et donc la puissance de médiatisation d'une véritable machine de guerre telle que TF1? Parce que les choses sont souvent volatiles dans ce métier. Les gens changent de poste, les mots de passe. Or TF1, donc depuis presque 20 ans, et plus que jamais d'ailleurs, est à vos côtés. Votre nouvel album sort sur TF1 Musique. Vous êtes la coach emblématique de The Voice Kids et bientôt de The Voice sur TF1. On attend la série de 8 épisodes baptisée Le Temps est assassin que vous tournez pour TF1. En fait, c'est un mariage avec TF1.
En fait, je les retrouve. Mais je ne les ai jamais vraiment perdus. TF1, ils m'ont été d'un grand soutien depuis le début. Et là, je les retrouve. Je retrouve une notion d'équipe, surtout. J'ai la chance de pouvoir entrer en coproduction avec TF1 concernant mon nouvel album. Je garde cette liberté.
Mais ça veut dire que, quelles que soient les directions de la première chaîne de télévision française... Chaque fois, vous les hypnotisez.
Bah, je sais pas, il se trouve que c'était F1, mais ça aurait pu être d'autres gens, mais il se trouve que c'était F1, et ça me va comme ça, moi.
Ah, bah,
moi, quand je lis des scénarios, je fonctionne au scénario, c'est pas parce que c'était F1 que je vais le faire. Maintenant, le téléfilm, il est... quand je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé le rôle. Et après, j'ai demandé qui, et c'est effectivement, c'est TF1, c'est produit par TF1.
Avec Emmanuel Seigné et Fred Testo.
Alors, Mathis Seigné et Fred Testo tournent dans la nouvelle époque. Il y a deux époques, en fait, sur Le Temps est assassin. L'histoire est fabuleuse, c'est issu du roman, du best-seller de Michel Bussy, Le Temps est assassin. Moi, je tourne dans l'ancienne époque. Donc, je ne tourne pas avec Mathis Seigné et Fred Testo, qui tournent donc dans le temps actuel, dans le présent. Moi, je suis dans l'ancienne époque, je tourne avec Dani, qui est une artiste exceptionnelle et une femme dingue que j'adore, qui joue ma mère. Et Grégory Fitoussi, Caterina Morino, une jeune bande de jeunes acteurs. Voilà. Et en fait, le rôle m'a plu parce qu'encore une fois, je peux apprendre. Je peux m'essayer à un rôle qui est plutôt dramatique avec un personnage extrêmement complexe. Moi, d'enfiler un costume différent et de me laisser un peu de côté, ben moi, ça me fait sentir vivante en fait.
Allez, on retrouve tout de suite Jennifer.
Europe 1.
Se délivre sur son nouvel album et se livre sur Europe 1 cet après-midi. Jennifer est l'invitée d'Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Jennifer, votre tournée au printemps 2019, vous allez l'assurer avec un orchestre de filles. Un orchestre de filles tel Prince, en fait, qui adorait sur scène être entouré de musiciennes, à la basse, au clavier, à la guitare, et surtout à la batterie d'ailleurs. On se souvient tous de l'extraordinaire Sheila E, qui était un batteur hors pair, n'est-ce pas? D'ailleurs, je sais pas si on dit batteuse, si
batteuse.
C'est admis. Allez, on va dire batteuse. Alors, vous aussi, tel Prince, vous serez entouré d'un orchestre de filles, et je voudrais savoir, vous vous emparez de ce mood-là, ça procède de quelle envie? C'est pas pour faire le buzz tel que je vous connais, mais c'était une envie profonde de se livrer autrement au public?
Autrement, exactement. En fait, quand je me suis retrouvée au studio, quand j'ai entamé toutes ces nouvelles chansons, ça résonnait comme étant une évidence. J'avais cette envie de faire la fête et de proposer quelque chose de différent aussi sur scène. Forcément, quand on chante, on le projette tout de suite sur scène. Et j'ai eu cette envie de repartir avec des musiciennes pour le coup, parce que les chansons, parce que il y a une plume un peu féline que m'ont emmené les auteurs avec Johan Mallory et tout ça. Et puis on s'est dit, mais et c'est sûr, elle a une sensibilité féminine. Il y a une sensibilité féminine et il y a quelque chose de très masculin aussi chez ces filles-là.
Oui,
donc en fait, la mixité, elle le crée d'elle-même.
Bien sûr.
Et elles viennent d'univers différents aussi
du
mien.
Parce qu'il faut assurer sur scène.
Mais c'est ça. Mais ce sont de vraies musiciennes.
Donc pour assurer sur scène, effectivement, il y a toujours... c'est double au niveau de la personnalité. Il faut une espèce de structure un peu masculine.
Deux,
voilà. Et surtout chez
deux.
Le batteur.
Exactement.
Alors, il s'est déroulé comment le casting pour Jennifer et sa bande de filles, le casting de la meilleure basse, la meilleure guitare, la meilleure au clavier et puis la meilleure à la batterie?
Eh ben, on est allé les chercher chez elles. Pour le coup, certaines ne sont jamais montées sur scène. Et j'adore l'idée aussi. La guitariste, par exemple, elle vient de Rennes. J'avais vu quelques vidéos d'elle et puis on est allé la chercher, on l'a castée et elle va faire sa première tournée avec moi. Donc moi aussi, c'est un merveilleux cadeau d'un côté qu'elle me fait. La batteuse, je l'avais repérée sur un spectacle qui s'appelle Le Rouge et le Noir.
Oui.
Je trouvais qu'elle sortait totalement du lot des musiciens. Moi, je suis très attentive aux musiciens quand je vais voir des spectacles. Ma bassiste aussi, elle vient d'un univers qui est différent du mien. Elle a des musiques un petit peu plus indé, comme on dit. Et dès qu'elle se met à jouer, elle a un dédoublement de personnalité. J'adore.
Elles vont être très très différentes l'une de l'autre, ces deux tournées qui se succèdent en fait au printemps, avec la fameuse date à Paris, la scène musicale le 18 mai.
J'ai toujours revendiqué mon amour pour les petites salles aussi, parce que ça crée, y a une proximité, une accessibilité comme ça, avec cet échange auquel je tiens quand je monte sur scène avec les gens. Et j'avais envie que ça chante, j'avais envie de revisiter aussi mon ancien répertoire, j'avais envie de proposer des versions autres, des versions acoustiques, et ça faisait longtemps aussi que j'avais pas proposé un show dans des plus grandes salles type Zénith, et du coup avec mes musiciennes et mes nouvelles chansons, ça s'y prêtait. Et donc du coup on est en train d'écrire tout ce spectacle, enfin j'ai commencé à écrire depuis le studio, mais
donc tout ça va être scénarisé, il y a une vraie mise en scène de show.
Oui, exactement, c'est pour ça qu'on entremêle ces deux tournées. Bon, c'est un pari, mais ils sont aussi challengers que moi dans mon équipe, donc moi quand on m'a dit ok, bah, je fonce quoi.
Mais alors, écoutez, là on parle musique. Tout à l'heure, on a évoqué rapidement la série événement en 8 épisodes baptisée Le Temps est assassin avec Mathilde Seigné et Fred Testo, qui sera très bientôt donc diffusée sur TF1. Je voudrais savoir, qu'est-ce que le fait finalement de jouer la comédie vous apporte que ne vous offre pas le fait de chanter? Parce que le fait de chanter vous offre tant de choses. Là, vous êtes en train, avec beaucoup d'enthousiasme et d'impatience, de nous parler de cette tournée et de ce spectacle qui va être mis en scène, qui va être un véritable show avec votre bande de filles que vous êtes en train d'écrire, que vous allez livrer donc dans des salles absolument gigantesques de 6, 7, 8 000 personnes. Ouais. Il fallait quand même aller voir ailleurs, du côté de la comédie.
Ça me plaît bien, oui. J'ai cette soif d'apprendre en fait aussi. J'aime bien les défis. Et c'est à travers le dépassement de soi et le fait de repousser mes propres limites qui me fait apprendre. Ça, j'aime les ambiances de tournage aussi, ça m'apprend des choses.
Est-ce que le cinéma vous fait les yeux doux?
Ben, ça me plaît, moi. Ça me plaît énormément, bien sûr. Mais je ne sais pas si
on vous envoie.
En tout cas,
non, mais on vous envoie des scénarios.
Ouais, j'en lis. J'ai cette chance-là de lire des choses qu'on songe à moi. Déjà, c'est plutôt flatteur parce que ce n'est pas mon métier à part entière. Mais c'est surtout quelque chose que j'aime. Juste d'enfiler un costume qui n'est pas le mien, ça me fait me sentir vivante, d'une certaine manière. Encore.
Elle est très, très, très vivante. Jennifer, on la retrouve tout de suite. On fait une très courte pause.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Et oui, vous êtes bien sur Europe 1. Il est 15h49. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin.
Jennifer, la vie de star, c'est une vie auto-centrée. Et qu'on le veuille ou non, eh bien, cette vie-là, elle est plus facile à gérer pour un homme que pour une femme, car lorsqu'on devient mère, il y a une responsabilité physique, charnelle, au-delà de la responsabilité morale due à la filiation. Alors comment vous partagez-vous entre toutes vos vies pour être une maman présente?
C'est une histoire d'organisation. Non mais je tiens à mon rôle forcément de maman, hein. Si je les ai faits, c'est pas pour qu'ils soient élevés par une autre. Ils ont des papas formidables. J'ai la chance d'avoir une famille qui est présente. Mes enfants ne manquent pas d'amour, c'est bien ça le principal. Et j'essaie de me dédoubler, même parfois.
Oui, de vous démultiplier, c'est ça.
C'est ça, je fais au mieux pour être la meilleure maman possible. Maintenant, personne n'est parfait, je suis loin d'être parfaite.
Mais parce que vos deux garçons...
En fait, je condense, ça, tout est une histoire d'organisation.
Bien sûr,
ça.
Mais ce qui ajoute à la difficulté, c'est que Aaron, votre fils aîné, a 15 ans, Joseph, 4 ans. Ouais. Donc il faut pour chacun une attention, une écoute, une autorité très très différente, parce qu'ils ne vivent pas sur la même planète.
Mais si. Mais si.
Non, 4 non, mais, et 15 ans.
Non, mais bien sûr, je garde énormément de communication avec mes deux garçons. Effectivement, c'est pas le. On rentre dans le grand écart d'âge. Je sais pas comment dire ça, mais je suis là pour mes enfants. Voilà, qu'il s'agisse des devoirs ou de donner un goûter, c'est la même chose.
Je vous imagine en maman louve, Jennifer. L'international, Jennifer, est-ce que vous y songez en fait? Parce que je sais que vous avez chanté en Israël, mais à Londres, à New York, vous en avez envie ou pas encore? Plus tard.
Je suis satisfaite, moi. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faudrait que j'accorde beaucoup plus de temps. Puis il n'y a jamais qu'il n'y a rien acquis, de toute façon, donc... Pourquoi pas un jour? Pourquoi pas un jour? Mais c'est excitant à l'idée comme ça. Mais après, il faut que je suis maman, comme on le disait. Non, mais il faut s'organiser, quoi.
Alors, en attendant, en tout cas, après The Voice Kids, vous retrouverez très bientôt le tout nouveau jury de The Voice, composé de Julien Clerc, donc, de Soprano, de Mika, et bien sûr de vous. Il y a toujours une joyeuse rivalité, en fait. La compétition, elle n'est pas que pour les candidats. Elle concerne aussi les coachs entre eux, non ?
Oui, 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 oui. Non, mais on s'en amuse beaucoup. Franchement, on est tous des copains. L'esprit est très bon enfant, ça se chamaille, mais c'est pas grave. Et puis c'est le jeu aussi qui veut ça. Il y a un moment donné aussi, on se chamaille pas entre nous. On peut pas se chamailler avec les talents, on se chamaille entre nous. Faut bien trouver quelque chose.
Jennifer, continue-t-on d'apprendre quand on coache des talents pour The Voice ?
Ah oui, tout à fait, bien sûr. Quand j'entends quelqu'un chanter, qui me bouleverse ou qui vienne me happer, me sortir des émotions, machin, il y a quelque chose qui se passe, j'apprends. Ouais.
Bon, on arrive là au bout de notre balade. Alors, vous avez réussi beaucoup, beaucoup de choses dans votre, j'ai envie de dire, encore très jeune vie. Le 18 mai prochain, vous chanterez devant plus de 6000 personnes sur la gigantesque scène donc de la scène musicale à Paris. Et ensuite, au terme de votre tournée, alors je le rappelle, qui démarre quand même le 8 mars sur vos terres, comme Ajaccio. Vous aimez dire, Ajaccio.
Oui.
Hein, sur vos terres.
Oui, je suis très contente. Ben, je vais me recharger, je vais faire le plein d'énergie extrêmement positive pour les répandre sur tout le,
voilà,
sur tout le long de la tournée.
Exactement. Alors, au terme de cette tournée, donc, qui s'achèvera avant l'été. Qu'aurez-vous envie de vous prouver d'inattendu, de puissant, Jennifer ? Voilà, de jubilatoire et qui vous fasse délicieusement peur, que vous n'avez pas encore expérimenté.
Moi, j'adorerais faire du saut en parachute, par exemple, avoir le courage de faire ça. J'adorerais, pour revenir moins auto-centré, j'adorerais que le monde aille mieux, moi. J'aimerais bien qu'il y ait un peu moins d'injustice dans ce monde de brut. C'est con, mais j'aimerais bien qu'on invente une baguette magique pour arrêter tous ces drames.
Vous occupez de beaucoup d'associations. Vous participez en tout cas. Alors, il y a toujours bien évidemment les Restos du Cœur,
oui.
Sans Jean-Jacques Goldman, mais j'imagine que de loin,
oui.
Il continue de tout surveiller, n'est-ce pas ?
C'est ce que je me dis.
C'est ce que vous espérez ?
Moi, c'est ce que je me dis. Oui.
Il n'y a plus Véronique Colucci.
Non.
Les choses risquent en douceur de changer.
J'espère pas. Enfin, ou alors c'est pour les Restos du Cœur et on n'en a plus besoin, il n'y a plus des gens qui ont besoin surtout. Voilà, je vois plutôt les choses comme ça. Moi, chaque fois que je retourne sur les Restos du Cœur, oui, on est content de se retrouver, on est content de retrouver le public et tout ça, et puis ça ramène quand même énormément de fonds, mais je préférerais que ça n'existe plus, parce que ça voudrait dire quand même que le monde va mieux et qu'en France, il n'y a plus de gens qui sont dans le besoin. Je suis arrivée sur les Restos du Cœur en 2003, ça existe depuis longtemps. Et en fait, ça me fait de la peine. Je vois des gens faire la queue pour recevoir un repas, ben, ça me laisse pas indemne, moi, cette histoire. Je préférais que ça s'arrête.
En attendant, vous nous donnez des rendez-vous euphoriques. La tournée,
oui.
Qui démarre donc le 8 mars à Ajaccio sur vos terres, qui va se dérouler jusqu'à l'été. L'arrêt à la scène musicale, quand je dis l'arrêt, je veux dire une pause sur ce gigantesque plateau, donc le 18 mai. Le nouvel album, lui, Subtilement Pop, a pour titre Nouvelle Page.
Oui.
Vous êtes une fille épatante.
Merci.
Merci Jennifer.
Ben vous aussi.
Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup.
Et merci à vous deux. C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, des confidences en toute confiance, chaque week-end de 15h à 16h sur Europe 1. Demain, c'est Thierry Ardisson qui sera invité à se dévoiler au micro d'Isabelle Morizet. Rendez-vous donc à 15h.